Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ce sont des images qui ont déclenché une onde de choc dans le monde entier. Elles ont été diffusées par la chaîne américaine d'information CNN et l'on y voit des migrants subsahariens africains vendus comme esclaves en Libye. L'affaire a fait l'objet d'une réunion d'urgence lors du dernier sommet Afrique-Europe à Abidjan. Des mesures d'évacuation d'urgence de migrants ont été annoncées ainsi qu'une intensification de la lutte contre les réseaux de passeurs. Mais cet aspect reste encore assez flou. Qui doit intervenir et comment dans la crise des migrants et notamment en Libye? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas deux mais trois invités qui nous rejoignent. Avec nous en studio, Sarah Abbas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'Organisation internationale pour les migrations. Jean-Christophe Dumont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la division des migrations internationales à l'OCDE, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique qui rassemble les principaux pays développés. Et par téléphone, Sophie Beau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale et cofondatrice de SOS Méditerranée, une association qui vient en aide aux migrants qui sont en détresse en Méditerranée. D'abord une précision, les images de CNN ont choqué et c'est plus que normal, mais en fait c'est pas complètement nouveau, on n'a pas appris le phénomène de vente comme esclave à cette occasion-là, Sarah Abbas.
Tout à fait, l'OIM a signalé déjà au mois d'avril cette année qu'il y avait des marchés aux esclaves en Libye. Ce sont des collègues à l'OIM au Niger. Il y a un grand centre de transit à Agadez où les migrants arrivent quand ils décident de rentrer de la Libye, qui ont raconté comment ça s'est passé pour beaucoup de migrants. Des marchés où les migrants ont été vendus aux Libyens ou aux d'autres personnes.
Jean-Christophe Dumont, vous étiez au courant de l'existence de marchés aux esclaves en Libye ?
En Libye et dans d'autres pays de la région,
parce que ça existe
Nigeria
ailleurs, hein.
et ailleurs, ce sont des pratiques effectivement d'un autre âge qui perdurent malheureusement. Et dans le contexte libyen, c'est pas une surprise, même si ces images ont évidemment eu un impact terrible. Absolument choquante de voir les choses en face, mais cette réalité-là existe déjà depuis un certain temps.
Sophie Beau, l'association que vous dirigez, SOS Méditerranée, recueille donc des migrants qui sont en détresse en mer Méditerranée. Les témoignages que vous avez pu recueillir vous confirment ces pratiques?
Mais absolument. Hein,
et ça fait longtemps.
Oui, tout à fait. C'est une réalité qu'on connaît depuis qu'on a commencé les opérations de sauvetage, c'est-à-dire en février 2016. Ça fait 22 mois qu'on entend des témoignages extrêmement durs, des personnes secourues qui nous parlent de cet esclavage ou de travail forcé, mais aussi de toute une liste d'atrocités qui sont liées à leurs conditions de séjour en Libye lorsqu'ils sont enfermés dans les camps de détention, avec des viols et des tortures généralisées, des violences multiples, notamment avec extorsion de rançon auprès des familles restées au pays, que les migrants doivent appeler au téléphone pendant ces séquences. Et puis on a des descriptions d'assassinats de migrants, on parle de fosses communes, enfin toute une série d'atrocités, et on est content que ces images aient pu enfin frapper les esprits, mais c'est quand même une réalité que les ONG comme nous et d'autres dénonçaient depuis déjà des mois et des mois.
On est clairement dans le crime contre l'humanité. Lors du sommet d'Abidjan, le chiffre de 3800 migrants subsahariens à évacuer d'urgence a été évoqué. Qu'en est-il, Sarah Abbas? Est-ce qu'on n'est pas sur un chiffrage minimal? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup plus que ça, en fait?
Oui, déjà pour vous donner une estimation du nombre de migrants présents en Libye, qui s'élève aujourd'hui à environ 700 000 personnes. L'OIM effectue des retours volontaires depuis plusieurs années, depuis 2011. C'est vrai que cette année, les retours volontaires ont beaucoup augmenté. On est à 14 000 seulement pour cette année, par rapport à l'année dernière où il y avait à peu près 2600 personnes qui ont bénéficié d'un retour volontaire. Mais le but, c'est que l'OIM intensifie ses retours avec un objectif de 15 000 retours cette année avant la fin de l'année.
Alors 15 000 d'ici donc au 31 décembre. Jean-Christophe Dumont, ces 3 800 migrants à évacuer d'urgence, on en est où? Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont partis?
Alors disons, ces chiffres sont évidemment à prendre avec beaucoup de précautions. Ils sont sûrement minorés dans le cas que vous citez. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi un flux de personnes. Donc, il y a à chaque instant du temps
Il y a des gens qui partent, mais d'autres qui arrivent tout le temps.
Hein, absolument. Et donc, on estime, et les estimations sont larges, qu'il y aurait entre 150 et 300 000 personnes qui passent par Agadez chaque année, qui remontent soit par la Libye, soit par l'Algérie. Ben, la plupart par la Libye. Et effectivement, ce sont déjà 160 000 personnes, un peu plus, qui ont traversé la Méditerranée et plus de 3 000 qui sont décédés en Méditerranée, en tout cas qu'on a pu identifier comme tels. Donc les chiffres sont importants, et les 3 000 dont on parle, c'est vraiment 3 000 personnes qui ont été identifiées comme étant dans une situation extrêmement vulnérable et qui nécessitent une évacuation d'urgence, si vous voulez. Et encore, connaît-on seulement les gens qui sont dans les centres de détention officielle, entre guillemets, et tous ceux qui sont tenus aux mains des milices, etc., ne sont pas dans ce calcul. Donc, en fait, les besoins sont largement au-delà des 3 000 personnes dont on parle, et les chiffres que l'AIOM vient de montrer indiquent que les besoins sont bien supérieurs à ces 3 000 personnes.
Sophie Beau, selon vos estimations à vous, combien de migrants chaque jour, j'allais dire ça comme ça, tentent la traversée?
Alors, c'est pas chaque jour, en fait, c'est en fonction des fenêtres météo. Depuis quelques jours, nous sommes en mer après avoir débarqué des rescapés. Il y a une mauvaise mer en ce moment, les conditions sont pas favorables, mais on sait que dès que ça va se calmer, il va y avoir des départs massifs. C'est en fait ce qui caractérise l'année 2017 par rapport à l'année dernière. Nous avons secouru 25 000 personnes depuis le début de nos opérations, même 25 196 très exactement. Et c'est ce qui caractérise cette année 2017, c'est que dès qu'il y a un moment de temps calme, il y a des embarcations qui sont poussées à la mer, mais en grand nombre, qui rend les opérations de sauvetage extrêmement périlleuses. Et ce qui est aussi de plus en plus fréquent, ce que nous disent les migrants que nous secourons, c'est que très souvent, ils ont tenté plusieurs fois de fuir cet enfer libyen, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, hein, c'est les termes qu'ils emploient, ils parlent de l'enfer libyen, mais ils sont souvent refoulés, interceptés dans les eaux libyennes par ce qu'on appelle les garde-côtes libyens, mais il faut mettre des guillemets parce qu'on ne sait pas forcément toujours à qui on a affaire. Ils sont remis ensuite dans ce circuit des camps en Libye et repassent par ces systèmes de traite humaine généralisée qu'on vient de décrire.
Et ça, cette fonction, si je peux dire ça comme ça, Sophie Beau, les garde-côtes libyens, même si on ne sait pas exactement de qui il s'agit, c'est en fait sous-traité par l'Union européenne, il faut le dire, quoi.
Alors effectivement, il y a deux choses un peu différentes. Il y a des personnels qui sont formés, entraînés avec de l'équipement qui est financé par l'Union européenne. Et puis il y a d'autres acteurs non identifiés mais qui se présentent éventuellement comme garde-côtes, mais on ne sait vraiment pas de qui il s'agit, qui sont aussi éventuellement des trafiquants ou des milices payés pour faire ce travail d'interception et qui remettent les migrants dans ce circuit de la traite, parce que c'est extrêmement lucratif et c'est bien ça le problème, c'est que l'ensemble du système génère énormément de profits pour les différents acteurs à terre, et c'est ce qui nous inquiète aussi énormément par rapport à d'éventuelles solutions. Comment faire cesser tout cela étant donné les revenus que ça génère?
Alors, justement, on va avancer. Jean-Christophe Dumont, quelle solution est-ce que vous préconisez pour réduire et faire cesser à terme ce trafic d'êtres humains?
Alors évidemment, il y a l'urgence humanitaire dont on vient de parler, et le fait qu'il faut aller secourir les gens qu'on peut secourir, mais c'est seulement dans une approche globale, dans une approche où on activerait tous les leviers politiques qu'on puisse activer, qu'on pourra obtenir des résultats. Ça veut dire que effectivement, il faut renforcer la lutte contre les passeurs en augmentant leurs risques, en réduisant en augmentant leurs coûts aussi, hein, simplement pour construire ces bateaux, par exemple. il faut un certain nombre de matériaux, il faut rendre ces constructions plus difficiles, il faut saisir leurs avoirs comme ça a été envisagé, mais en aval, il faut aussi travailler sur l'emploi illégal d'étrangers en Europe, de façon à ce que l'effet d'appel d'air ne se produise pas. En amont, il faut aussi travailler avec les candidats au départ pour leur expliquer les risques qu'ils rencontrent, et puis offrir des routes légales sûres de migration, à la fois par les programmes de réinstallation. L'Union européenne a promis 50 000 places et 500 millions d'euros. C'est une sorte de minimum qui correspond à peine à ce que l'UNHCR évalue sur la région. Et puis, il y a d'autres routes migratoires qui sont possibles pour ceux qui ont des familles, pour ceux qui ont des compétences. Et donc, il faut avoir une approche globale, à la fois avec des routes migratoires légales et à la fois en rendant la vie plus difficile à ces trafiquants.
Sarah Abbas, légaliser, sécuriser les routes migratoires, ça serait déjà un premier pas ?
Oui, je suis d'accord. C'est ça que nous disons à l'OIM depuis très longtemps, que il y a des passeurs, des trafiquants, parce qu'il n'y a pas de voie légale de migration. Voilà, il faut plus de voies légales, comme M. Dumont a mentionné. Il faut peut-être une protection temporaire des personnes, plus de visas pour le travail, renforcer la réinstallation depuis la Libye, mais aussi dans la région, etc. Déjà, pour que les personnes n'ont pas à faire appel aux passeurs.
Voie légale, ça veut donc dire, Jean-Christophe Dumont, qu'il faut des débouchés. Il faut donc que les pays européens, puisque c'est le but de ces migrants, accueillent ces migrants.
Alors en partie, la question, c'est d'abord d'identifier ceux qui pourraient relever de la protection internationale, et c'est l'objet de l'action notamment du HR et de l'OIM, notamment au Niger, d'essayer d'avoir une étude des cas des gens qui relèveraient de cette protection internationale avant qu'ils atteignent la Libye, de façon à pouvoir les insérer dans un programme de réinstallation. Encore faut-il que ces places en termes de réinstallation existent et soient financées, qu'il y ait des pays européens qui soient prêts à les accueillir. On voit bien les difficultés qu'il y a pu y avoir pour les programmes de relocalisation, voire de réinstallation depuis la Turquie. Et donc là, il faut effectivement changer d'échelle de ce côté-là. Mais effectivement, il y a d'autres personnes qui répondent aux critères des voies légales qui existent déjà. Il ne s'agit pas nécessairement de créer des nouveaux programmes, il ne s'agit pas de créer des nouveaux canaux migratoires, mais simplement que les gens aient conscience de leurs droits et des possibilités qui existent, et de faciliter, lever un certain nombre d'obstacles quand c'est possible. Et puis, il y a des gens qui effectivement peut-être ont un avenir dans la région, dans leur pays d'origine, et il faut aider à ce que cet avenir puisse se faire. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose à faire au travers de l'aide au développement, qui pour l'instant cible les gens les plus pauvres. Ce ne sont pas forcément ceux qui sont en mouvement dans ce cas-là, et donc il faut aussi des opportunités d'emploi en Afrique de l'Ouest, dans la région, et donc c'est encore une fois cette approche globale qui permettra de faire une différence à long terme.
C'est ce que disait le président ghanéen Addo juste après le sommet d'Abidjan, au moment de la visite d'Emmanuel Macron. Et justement, alors voilà, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'Europe ? Il y a de l'argent qui est versé au gouvernement libyen, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en Libye, il y a deux autorités. Est-ce qu'une partie de la solution est de couper les fonds ou de mieux contrôler leur destination, Sarah Abbas ?
Pour l'OIM, la priorité, dans tous les cas, c'est de sauver les vies. Ça, c'est primordial. On a presque 3 000 qui ont décédé cette année en traversant la Méditerranée. L'année dernière, il y avait 5 000. Du coup, pour l'OIM, c'est d'offrir une protection aux personnes, aux migrants, tout au long de la route migratoire, mais pas seulement en Libye, hein, qui commence vers le Sénégal, en passant par le Mali, le Niger.
Mais ça vient de toute l'Afrique subsaharienne et ça se concentre à travers quelques passages au sud de la Libye, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Est-ce que, alors là, vous parliez de sécuriser les routes migratoires. Emmanuel Macron a évoqué une opération de police. Est-ce que ça vous paraît faisable ? Sarah Abbas, vous avez l'air dubitative.
Oui, je pense que C'est très complexe. Hein. La migration, c'est depuis toujours. On va pas arrêter la migration. Les gens vont toujours migrer. C'est depuis des milliers d'années.
Et ça sera de plus en plus le cas avec les changements climatiques, on le sait déjà.
Aussi, oui, bien sûr, le changement climatique influe beaucoup sur les migrations. On ne peut pas construire des murs, les gens vont contourner les murs, on l'a bien vu en Europe. Je pense que, vraiment, j'insiste sur les voies légales de migration et je salue aussi l'initiative du gouvernement français de procéder à ces missions de sélection au Niger au Niger et en Tchad. Les premiers réfugiés qui vont arriver dans pas longtemps et j'espère qu'il y a d'autres États européens qui vont suivre cette voie.
Sophie Beau, quelle solution est-ce que vous préconisez pour arrêter pour contrôler ou sécuriser ce flux?
Nous, si vous voulez, ce qui nous choque énormément, et c'est pour ça qu'on a créé SOS Méditerranée, c'est la défaillance des États dans leur prérogative première qui est de préserver la vie humaine. Donc là, face à cette urgence humanitaire sans précédent, je suis très étonnée qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus du sauvetage en mer. C'est quelque chose qui a disparu de l'agenda, alors qu'on parle de plus en plus des questions de solutions à terre en Libye. On ne parle plus du sauvetage en mer. Il n'y a aucun moyen de sauvetage institutionnel qui soit mis en place, il faut le rappeler, pour le sauvetage. Il y a des navires qui sont sur zone, mais des navires militaires de la force Euniformed Sophia ou qui ont d'autres mandats, des gardes-côtes, etc. Il y a quand même une urgence humanitaire qui est franchement mais insupportable. Et ce que nous, on ne comprend pas, c'est ne pas pouvoir déjà commencer par assurer la préservation des vies humaines avec des milliers de vies qui sont en jeu et dont la mort pourrait être évitée. Donc ça, c'est vraiment la première chose pour nous. Ensuite, la deuxième chose, puisque nous sommes une association positionnée en mer, évidemment, c'est d'empêcher le refoulement des migrants qui fuient par la mer, qui fuient la Libye, et de revoir cette coopération effectivement entre l'Union européenne et l'État, ou en tout cas ce qu'il y a comme embryon d'État en Libye, notamment avec cette coopération avec les gardes-côtes libyens ou des personnes qui se présentent comme des gardes-côtes libyens mais qui n'assurent pas la préservation des vies humaines et qui remettent les gens dans le circuit de cette traite humaine en Libye.
Jean-Christophe Dumont, vous souhaitiez réagir?
Oui, en fait, simplement pour préciser que ce qui est important maintenant, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on est sorti du mode crise. On n'est plus dans la situation qu'on a connue en 2015 et en 2016 avec des arrivées extrêmement massives de personnes. Aujourd'hui, on l'a dit, environ 160 000 personnes ont traversé la Méditerranée cette année. C'est à peu près autant que l'année précédente. Et donc c'est une situation qui est devenue structurelle, qui est amenée à perdurer, qui est complètement déconnecté du conflit syrien. Ce sont pas des Syriens qui sont sur ces bateaux, principalement des gens d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest. Et donc, ce qu'il faut, ce sont effectivement des réponses structurelles à un problème structurel et pas des solutions sur un mode crise qui renforce les moyens ponctuellement, mais c'est changer ce régime global et cette approche globale du phénomène migratoire.
Ça veut dire qu'il faut redistribuer les moyens, ou est-ce que les moyens ne sont pas à la hauteur? Est-ce qu'il faudrait en faire plus?
Vous avez demandé au départ de qui était la responsabilité de cette situation. Je pense que c'est vraiment une responsabilité collective qui implique aussi pour part les pays d'origine et de transit qui doivent avoir leur rôle à jouer.
Oui, que peuvent faire les pays africains justement.
Mais voilà, les pays africains doivent aussi disons créer les conditions d'un avenir meilleur pour la jeunesse africaine. Ils ont une part de responsabilité partagée dans cet objectif-là. Il y a aussi des moyens qui peuvent être mobilisés au niveau européen pour soutenir cette approche, mais c'est aussi ça qu'on observe, c'est-à-dire qu'on observe cette fuite de la jeunesse africaine vers l'Europe, qui en fait correspond quand même à une fraction extrêmement faible de l'ensemble de la population africaine, mais qui a des aspirations qui ne peuvent pas se satisfaire localement, et donc il faut en prendre compte et permettre à tous ces jeunes qui sont notamment nouveaux diplômés, etc., de trouver des emplois aussi. aussi dans la région, et c'est faisable.
Merci Jean-Christophe Dumont, merci à vous également Sarah Abbas, on est déjà au bout de cette émission. Merci Sophie Beau qui était avec nous au téléphone de Marseille. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce, Gérard Perrault et Quentin Bresson qui étaient ce soir à la réalisation. Rappelons que la Deutsche Welle, l'agence italienne ANSA, France Média Monde dont fait partie RFI, sont à l'origine du site infomigrant au pluriel.net, un site dont le but est de fournir une information fiable aux migrants. Prochain débat, même heure, même endroit. Bonjour chez vous, même si c'est sur la route.